Maîtrise Notre-Dame de Paris.
400 artistes pour une soirée unique.
Tous nos concerts au 01 56 40 15 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter, la voix est libre.
Et sur France Inter, il est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, bonjour. À partir du 21 décembre, les jours rallongent et c'est tant mieux.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission sur Jean Zé. Et je suis très émue. Voilà, j'étais élève à l'école normale d'Orléans. Et en 63, j'ai eu le plaisir j'ai eu le plaisir d'accueillir Madame Jean Zé à l'école normale pour un spectacle que nous donnions. Voilà, et vraiment, c'était une superbe émission. Et j'ai appris encore plein de choses sur ce magnifique personnage. Voilà, c'est Yvette Quéré dans l'Aveyron.
Oui, bon, excusez-moi, mais je n'ai du mal à supporter la glorification. Bien sûr, c'est bien de rendre hommage à Jean Zay, qui a certainement été un homme très honnête et qui l'a payé de sa vie d'ailleurs. Mais toutes ces conquêtes, elles ont été le produit d'une lutte importante en 36, et certainement que c'était aussi des revendications des enseignants à l'époque, des syndicats enseignants. Enfin, c'est pas un homme comme ça providentiel. Et deuxièmement, la dame dit ces réformes ont été poursuivies pendant les Trente Glorieuses. Elles ont été poursuivies pendant les Trente Glorieuses parce qu'il y a eu ce qui s'est passé au lendemain de la guerre et au Conseil national de la Résistance, qui lui-même a été le produit d'un rapport de force entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, quand même. Oh.
4G par-ci, 4G par-là, on entend parler de tout ça. Alors moi, je sais tout, hein, notamment, tiens, hier, 21 minutes sur France Inter. Alors donc, je sais tout, moi, sur la 4G. Je sais... objectifs et les stratégies des opérateurs, la guerre qui se livre, les implantations, où ça marche pas, les retombées économiques, je sais tout sur la 4G. Sauf un tout petit détail. Un petit détail, vraiment une... Là, j'exagère presque d'en parler, hein. C'est vraiment, je cherche la petite puce, quoi. C'est un tout minuscule petit détail. Ça sert à quoi, la 4G?
Alors voyez-vous, j'essaye d'obtenir de l'information concernant le convoi de déchets nucléaires qui a déraillé à Drancy. Et pour arriver à voir quelques images, il faut que je me tape des quantités de spots publicitaires, tous plus idiots les uns que les autres. Donc, en France, quand il va y avoir un gros accident nucléaire, le prix du spot publicitaire va être démentiel. Et là, il y en a qui vont gagner de l'argent, mais terrible.
Bonjour à tous, Alain en Savoie. J'appelais parce que j'ai vu sur la Bapor, tu voulais savoir ce qu'on faisait en t'écoutant, et ben moi je travaille, tu vois. Je travaille chez un viticulteur, là je suis en ce moment en train de tailler, et je t'écoute au boulot toute l'année. D'ailleurs, je tenais à remercier là-bas.org particulièrement parce que grâce à eux, je ne loupe aucune de tes émissions. Ça fait depuis 95, je crois que je n'en ai pas loupé une. Et voilà. Autre chose, en guise de rediffusion, bon, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux les rediffs, on aime autant les émissions originales, mais si tu as l'occasion de rediffuser, tu avais fait une émission sur la rumeur. Pas le groupe de musique, hein, la vraie rumeur, hein, celle qui enfle et qui ne s'arrête plus. Je crois que c'était la fin des années 90, ce serait sympa de la rediffuser parce que elle était vraiment bien cette émission. Voilà, et ben, joyeux Noël à tous et puis à l'année prochaine. Salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Messages qui me parviennent d'ici. Je suis devant cette digue et je vois d'énormes vagues qui passent par-dessus la digue. Je suis à Quiberon dans le bateau pour Béliévé. Ça va remuer, ça va secouer. Et vous allez bien tranquille en train de profiter du programme qu'on vous a concocté pour ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nouvelle diffusion d'un reportage de Charlotte Perry, La Belle à coups de poing. La Belle à coups de poing. L'histoire d'un taulard qui s'en sort par la boxe une très très belle histoire qui vous avait plu à l'époque et qu'on a sorti de derrière les fagots. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez nous dire hein, si vous avez envie de réécouter certaines émissions. La rumeur, on ne l'a pas retrouvée. Je ne vois pas très bien de quoi il s'agit, ça doit être très très ancien. Mais d'autres émissions plus récentes, si vous avez envie, bien, ah, j'en aimerais bien écouter ça. C'était... Voilà, et ben, on peut tout à fait suivre vos désirs. Voilà notre programme du jour. Et là, ça va remuer, c'est magnifique. Hein. C'est très 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 beau. Là, encore une énorme vague qui passe par-dessus. Et le bateau va partir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Devinette de Noël. Quelle est la différence entre Daniel Mermet et le Père Noël? Le Père Noël est en rouge, Daniel aussi. Le Père Noël a mal au dos avec sa hotte, Daniel aussi. Le Père Noël aime les enfants, Daniel aussi. Le Père Noël est plutôt âgé. Daniel, ça commence. Non, la différence, c'est que le Père Noël, il travaille une fois par an. Allez, ciao vive, portez-vous bien, régalez-vous.
Des conseils culinaires d'avant réveillon. M'emmerde, mais m'emmerde.
On est toujours sans nouvelles de la mère Noël. Et ça m'inquiète un peu.
Selon une étude publiée par l'Humanité, les accidents et maladies professionnelles, déclarées, sous-estimées, dissimulées, les pertes de production qui en résultent, les coûts sociétaux induits, représentent en France 80 milliards. Que disent les perroquets médiatiques du coût du mal au travail? Régis de Nîmes.
Une très bonne soupe, hein, c'est 4 heures de préparation. Voilà, alors pour une soupe, un dessin animé. Alors 2 soupes, 2 dessins animés. 3 soupes, 3 dessins animés. 4 soupes, 4 dessins animés.
Antenne 2.
Il aura 26 ans dans 2 mois.
23 novembre 1983.
Si vous êtes un peu tassé, lorsqu'il est fatigué, il boite de la jambe gauche. Il mesure 1m78 et pèse environ 60 kg. Visage un peu carré qu'on discerne mieux lorsqu'il n'a pas sa barbe. Armé d'un C-65, sans beaucoup d'argent, sans grand contact dans le milieu de Paris, Lionel Cardon doit se cacher quelque part dans la ville. Classé extrêmement dangereux par la police, il sait qu'on ratisse les garnis, les bars et les squats pour le retrouver. Il est aux abois, il a dit qu'il était blessé et il sait qu'il va lui falloir bouger pour tenter de s'échapper.
J'ai plus la notion du temps. C'est normal après 30 ans de prison. On n'a plus de notion du temps.
30 ans en prison?
Ouais, presque.
Madame, monsieur, bonsoir. Ce n'est pas un détenu ordinaire qui était monté cet après-midi sur le toit de la prison de Fresnes. Lionel Cardon, jeune et triple assassin, condamné à perpétuité.
On est des clébards en laisse, hein, y a pas à chier. On est des clébards en laisse.
On travaille les combinaisons, on travaille le cardio. Gauche, droite, crochet au foie. Gauche, percute, crochet face. 1, 2, 3 en ligne. 1, 2, 3 plexus. On travaille sur le sac. C'est incontournable le sac à la boxe. Puis ça permet de se retrouver, quoi. Hein?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. La belle à coups de poing.
Flight number 2, arriving from New York.
Moi, ça me plaît, hein. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me passionne quelque part. Je m'en suis sorti grâce à la boxe.
Vous avez commencé quand, la boxe?
Il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, après être sorti des quartiers de sécurité, c'est là que j'ai rencontré la boxe. Ça m'a permis de supporter la détention et de chercher à m'évader.
Parce qu'avant, vous avez cherché à vous évader de prison?
Chercher à m'évader, ouais. C'est normal, quand on a perpétuité, je pense, quelque part, humainement parlant, de chercher à se sortir d'une impasse pareille. Être condamné à perpète, point barre. Vous n'avez plus le droit au chapitre, socialement parlant. Donc, il y a des gens qui acceptent, une majorité accepte, et il y a une minorité qui n'accepte pas. Alors bon, bah les seules réponses, c'est chercher à s'évader. Mais la porte m'a été ouverte par la DAP, la direction centrale de l'administration pénitentiaire. À l'époque, c'était Bernard Prévost qui était là-bas. Il est venu me voir en quartier d'isolement et de sécurité, à Bois d'Arcy. Et il m'a dit, bon, si on arrive à établir avec vous un contrat de confiance, à savoir de ne plus chercher à vous évader, eh bien, on peut mettre un projet en ce qui vous concerne, vous sortir des quartiers d'isolement et de sécurité, vous mettre en détention normale sur un établissement de longue peine, donc Moulin-Isère en l'occurrence, et ne vous permettre de vous épanouir au travers de quelque chose que vous trouverez. Et arrivé à Moulin-Isère, la direction m'a dit qu'est-ce qui vous plairait. Parce que quand on est DPS et DHR, DPS, détenu particulièrement surveillé, DHR, détenu à haut risque en matière d'évasion. Donc quand vous avez ces deux statuts, ces deux casquettes, il est certain que vous arrivez dans un établissement pénitentiaire, même de haute sécurité, on vous balise votre parcours, vous n'avez pas le droit aux ateliers, puisqu'il y a une approche de véhicules, etc. Donc, les véhicules peuvent servir à enfoncer des sas, comme j'avais essayé de prendre un camion déjà pour enfoncer un sas, mais c'était avant de passer mon contrat. Et une fois que j'ai passé le contrat de confiance avec la DAP, et je n'ai pas cherché une seule fois à m'évader. J'ai dit, ok, la boxe. Donc la direction de Moulin-Isère, c'était en 97, a fait venir un entraîneur de Lyon. Et on a monté dans le gymnase un espace boxe. Et c'est là que j'ai découvert la boxe anglaise.
On se demande souvent pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Vous vous souvenez peut-être de ce vers de Jean Genet, éloge de l'assassin, la séduction de l'assassin Jean Genet, ayant lui-même goûté de la paille du cachot. Poète, grand poète, homme d'opposition, de dissidence, Jean Genet. Il n'est pas le seul à être fasciné par la beauté de l'assassin qui fait pâlir le jour. J'ai sous les yeux un dossier sur Lionel Gardon. Toute la presse s'est intéressée au destin, à l'entêtement de cet homme et à ses méfaits, pas tous résolus. L'ennemi public numéro un se définit parfois ainsi, Gardon Zorro, Gardon Zéro. Si les experts ont bien vu l'adolescent à l'affectivité extrêmement vive, entre guillemets, perclus d'angoisse, entre guillemets, ils ont aussi décrit hier, à la première journée de son procès, un mégalomane déséquilibré et psychopathe. C'est cet homme-là qui est avec nous aujourd'hui que Charlotte Perry a rencontré. On ne saura pas tout sur lui, on ne dira pas tout sur lui, et lui ne dira pas tout non plus. C'est une convention et c'est une demande du tribunal de grande instance de Toulouse. Il est en semi-liberté, donc une épreuve, une ultime épreuve, et il doit la remporter s'il veut accomplir son souhait, c'est-à-dire devenir moniteur de boxe. Comment un homme résiste à cette situation, 30 ans de prison? Pourquoi est-ce que certains se laissent complètement aller dans ces endroits? Comment d'autres résistent? Comment la société qui s'installe, qui se constitue dans ces lieux de longue peine, ça nous fascine. Tout ça, respect aux victimes, bien évidemment, et aux familles des victimes, bien évidemment, mais intérêt partagé par tous, du poète au lecteur distrait de cette presse-là, pour des destins singuliers. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, la belle à coups de poing.
Ça commence comme ça. Je nage dans le noir, peinard, bien au chaud dans mon cachot, souple comme le roseau, libre, ainsi que l'oiseau. Pas de limite, pas de fuite. Mais les murs arrivent, écrasent, écorchent, embrassent de force ma fine écorce, et partent comme ils sont venus, loin de ma peau nue.
Et puis viennent encore contre mon petit corps, me serrent et mâchent ma chair. Faut que je m'arrache de cet enfer. Là-bas, de la lumière. Tête la première, je fonce et m'enfonce dans les ronces. Et je crie, j'entre et je sors d'un ventre. Suis-je mort? Maman, je te demande pardon, mais tu marches sur mon cordon. De son balcon, je m'envole, tel un avion sans gazole. Et j'atterris sur le gazon de l'école, où j'en prends pour 15 ans, mais j'apprends. Alors je grimpe les barreaux de mon cahier grand carreau. Et arrivé en haut, je plonge dans la marge. Je préfère dériver vers le large en pleine mer que ramer dans la galère. Sorry daddy, je grandis, je m'enfuis. Toujours en cavale de villes en vallée. Mais n'allez pas croire que je me la coule douce. La thune pousse pas sur le bitume de Portsmouth ou de Pamplune. Et je bouffe pas que de la mousse ou des croissants de lune. Je suis en viande, pas qu'en âme, comme tous les bouts d'hommes et de dames, les Ève et les Adam. Ceux qui purgent leur peine 5 jours semaine pour payer le loyer de l'Éden, la feuille de vigne et la golden. Moi j'aime mieux un petit creux dans ma panse avec le vent sur ma couenne. Sorry l'ami, la vie ça se danse, je pense donc je fuis. Et je cours, mais je cours de moins en moins vite. La vie c'est une fête, c'est pas une fuite. Je vais pas faire basket jusqu'à ce que je pète une durite. Je flippe, mais c'est pas de ma faute. Derrière moi y'a les autres, la messe, l'usine et le football. Cette espèce de chine qu'on appelle la foule. Hélas, je m'écroule dans un cul-de-sac, affolé comme un black devant le clan. Comme un sans-pape passé clandestinement. Comme n'importe qui veut sauver sa peau devant n'importe quel gestapo. Mais coup de peau, je me glisse dans une trappe, juste avant qu'on me rattrape.
Vous étiez détenu sous haute surveillance et détenu à...
Et détenu particulièrement surveillé. Ça, en matière d'évasion, bien entendu, hein, en matière d'évasion, en matière d'émeute aussi, parce qu'on est d'une génération, cette génération où on faisait brûler les prisons pour obtenir des améliorations de conditions de détention.
Combien de fois vous avez essayé de vous évader?
Je me souviens plus. Plusieurs fois. La dernière, c'était avec des explosifs. Quand on emploie des explosifs, ça fait des dégâts. Je me suis arrangé pour pas qu'il y ait de dégâts humains. Même sur des prises d'otages, je n'ai jamais blessé de surveillant. Je ne suis pas un fou furieux, quoi.
D'accord. Vous avez pris en otage un gardien, quoi?
Ah, plusieurs, oui. Mais c'était à cette époque-là pour faire valoir nos droits dans les quartiers de sécurité, de se faire entendre, de demander des meilleures conditions, de demander à sortir des quartiers de sécurité.
Est-ce que vous aviez passé combien de temps en quartier de sécurité?
J'ai passé 14 ans.
14 ans?
Ouais.
En isolement, c'est...
Ouais.
C'est mitard, quoi.
Non, c'est pire que le mitard. Le mitard, vous y arrivez pour 15 jours, 3 semaines, 45 jours à l'époque, puis vous en sortez. Vous réintégrez la détention. Le quartier de sécurité, non. Si il y a une ordonnance, vous avez un maintien dans les quartiers de sécurité. Je comprends la réponse de l'administration pénitentiaire, etc. Je ne suis pas en train de faire un procès d'intention. Vous avez un gars qui cherche à s'évader, il a été condamné, il doit payer sa dette à la société, il cherche à s'évader. Bon, il nous faut une réponse. On ne va pas le laisser s'évader quand même. Cela étant... il faut quand même incarcérer les gens dans des conditions acceptables, humaines. Pas les traiter comme des clébards. Pas parce qu'on est en prison qu'on doit être traité comme un clébard. Alors moi, je me suis toujours heurté à ça. Préserver ma dignité, éviter les humiliations, les fouilles à corps.
À nu.
Ouais, nu. Vous tournez, vous baissez, je ne l'ai jamais fait. Penchez-vous en avant, toussez, pour voir si vous n'avez pas caché quelque chose dans votre rectum ou dans votre vagin pour une femme. Je veux dire, mais c'est hyper humiliant, quoi. Je veux dire, on n'est plus rien après, on n'est plus rien. À une époque, on vous mettait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans dans un quartier, on s'en foutait, quoi, tant qu'il n'y avait pas de pépins. Les parloirs, généralement, à l'époque, se faisaient derrière des hygiophones. Moi, ma femme, pendant X années, j'ai pas pu la prendre dans mes bras. J'avais mes sœurs qui venaient, etc. Ma famille et tout. Je pouvais pas les toucher, quoi. On s'embrassait derrière un hygiophone, quoi. Si on parle d'un temps bien défini, c'est une chose. Mais quand on parle d'années, années qui succèdent aux années, qui succèdent aux années, et que votre situation n'évolue pas, moi, je pouvais pas accepter, personnellement. D'où cette hargne, cette rage à toujours chercher à m'évader pour dire au moins je pourrais serrer ma femme dans mes bras.
Votre femme, elle vous a attendu 30 ans?
Non. On est restés 11 ans ensemble. Et puis après, c'est très dur à maintenir des relations en prison. On ne peut pas parler de vie de couple. Madame Guigou a fait des choses extraordinaires, notamment au niveau des UVF. Unité de vie familiale. qui permet de maintenir les liens avec la famille, avec l'épouse, avec les enfants, etc. Puisqu'on est dans un cadre, c'est des F2 ou des F3. Vous avez le droit d'y aller pour ceux qui ne bénéficient pas de permission de sortie. Moi, la première fois que j'ai fait, parce que bon, j'étais divorcé entre-temps, avec ma compagne du moment, on a fait une douche, je crois qu'on est resté 2-3 heures sous la douche, à se laver mutuellement. Et moi, ça faisait plus de 20aine d'années que je n'avais pas pris une douche avec une femme. C'est bête, hein, mais c'est ça. J'ai eu 3 compagnes sur 29 ans, j'ai eu 3 compagnes. Voilà, c'est des bons souvenirs, tout ça. Enfin, bons souvenirs de couple, on va dire, sur le plan humain, hein. Je ne parle pas du cadre. Et Mme Elisabeth Guigou avait fait en sorte de développer, je veux dire, le maintien des liens familiaux, le maintien avec l'épouse, que c'est ce qui tient un bonhomme debout, quoi.
Croire moi, j'ai reçu ta lettre du 25-02. Dehors toujours la même merde, stupide à goarder. Les gars de confiance me disent connaître la poucave, un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref, on verra après. Mounir m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère, pas sous la paix. Trahi par la raison quand elle manquait à l'appel, trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris. Berné par la folie et sa présence, tout est écrit de la naissance et son Christ qu'on la seule et son silence.
18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt, ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. J'suis pas snoop, j'rappe sans faute. Tu sais ce qu'ils m'ont dit, faut que j'travaille pour que la pute me donne la condi. Hemmi, la zermi, comme passer les fêtes au Tarmi. J'gamberge, j'ai sans mon zola, impossible de dormir. Sinon dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes, staff. Et sur les murs j'ai des photos de tasses. Et le matin me guette, porte clé à perpétuité. Si si, leurs mamans sont des prostituées. Maintenant je sais, je peux compter sur qui. Merci de ton aide, je vais survivre, c'est pas le bled ou la Turquie. La tôle c'est la pression, j'aurai l'instinct de révolution. Donc nique sa mère la réinsertion. Si j'aime qu'on en arrive là. Technique de barre parcellée, j'harcèle la juge, bientôt j'arrache les barbelés, on a du boulot. J'suis en manque de poulet de boulot. Et tonton, j'te ferai goûter les pâtes au thon, on veut le roro. Seulement si Dieu veut, on l'aura. Pour l'instant, j'déchire mes draps pour faire des yo-yo. Salut les man, l'ami, paix à ton âme, la vie. Continue, on voit de la fraîche, que j'continue.
Terminé, on rentre.
Avant de rencontrer la boxe en prison, sur les 14 premières années, j'ai respecté aucune règle, aucun règlement, aucun ordre. Les feux rouges, je les grillais. Les sens interdits, je les prenais. Bon, je montais sur les toits. Pour dénoncer toujours les conditions de détention et pour de demander qu'on me donne des perspectives d'avenir, que ça soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais donnez-moi des perspectives d'avenir. Les perpétuités, c'est spécifique pour ça. C'est-à-dire que on est géré par le ministère, par tout ça. On est géré de façon large. Ben, bien sûr, on n'a pas de date de sortie. On lui fait faire combien à ce gars-là? En fonction des textes, en fonction des régimes qui sont en place, que ce soit les socialos ou la droite, eh bien, en fonction de différents courants politiques qui sont en place, on l'a vu avec Sarkozy, les perpètes ne devaient pas sortir.
Jamais.
Jamais. On applique la politique américaine. Qu'est-ce qu'on croit? On croit sur un type comme moi, parce qu'il y a l'insécurité aujourd'hui, on va me laisser en prison. Je ne suis pas responsable de la délinquance de 2012. Je suis peut-être responsable de la délinquance de 83-84, parce que j'ai été dans la délinquance à ce moment-là, dans le banditisme, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on va dire, non, écoutez, la société est assez violente comme ça, on ne va pas en plus sortir des tueurs de flics, des braqueurs, etc. Alors je m'inquiétais. À quoi ça tient, en fait? L'histoire d'un homme, l'histoire d'un parcours comme ça, ça tient à une coloration politique, en fait. Si Sarkozy avait été réélu, avec Dati dans son sillage, eh bien, je ne serais pas sorti. Donc, voilà à quoi ça tient. Très léger, c'est ça. J'avais rencontré en 98 Mme Elisabeth Guigou. Au quartier de sécurité de la santé, je l'ai rencontré. Parce que j'ai interpellé le ministère, je disais, il faut trouver une issue. Je ne peux pas rester comme ça, il y a ma femme qui m'attend, je ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et Il y a eu des perspectives qui ont été dessinées par la gauche. On m'avait dit, j'avais pris 18 ans de sécurité. Donc, dans la 21e année, on va dire, on lui donnera une conditionnelle, on lui donnera sa deuxième chance. Et après est arrivée la droite. Donc, les explications, ben, on n'est plus aux manettes. Les engagements pris, bon, ben,
c'est tombé.
Ça tombe à l'eau. Et j'ai fait près de 30 ans. J'ai fait 10 ans de plus, quoi.
Quoi,
on peut le dire? Non. On peut pas le dire parce que j'ai pas le droit de parler des faits. Tout ce qui est braquage, fusillade avec les services de police, il y a que l'avocat qui peut en parler, c'est pas moi. Hein. D'accord? J'ai pas le droit d'en parler.
Madame, monsieur, bonsoir. Ce n'est pas un détenu ordinaire qui était monté cet après-midi sur le toit de la prison.
Retour en France avec l'épilogue dans le procès de Lionel Cardon.
Aux dernières nouvelles, il serait vêtu d'une veste noire, de vert blanc et pantalon. Une veste de cuir noir, de vert blanc, blanc, pantalon. En quelques heures, Cardon est passé de la délinquance à la criminalité. De la délinquance classée extrêmement dangereuse par la police.
Tout converge vers Lionel Cardon.
Ont condamné Cardon.
Perpétuité. Perpétuité.
Pierre Blasi, avocat à la Cour à Bordeaux.
Vous avez défendu Lionel Cardon au cours des différentes affaires pour lesquelles il a été condamné à perpétuité. Alors, lui n'a pas le droit de parler des faits. S'il parle des faits, il risque d'être réincarcéré, c'est ça?
Tout à fait. Donc, il ne va pas en parler.
Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ces faits, ce qui s'est passé?
Il y a eu deux affaires. Bon, il y avait l'affaire donc, de Bordeaux et l'affaire de Paris. Alors, l'affaire de Bordeaux... C'est très simple, on retrouve un chirurgien mort dans sa baignoire. Sa femme a disparu. Pendant quelque temps, on va retrouver les traces de sa femme autour d'un périple qui nous amènera jusqu'à Nevers. Une rançon est demandée et finalement, bon, on retrouve le cadavre de cette dame au bout de plusieurs jours derrière une haie de Nevers. Alors, voilà donc pour les faits. Des gens ont vu M. Cardon qui rôdait autour de la maison, et là, on va connaître donc le nom de M. Cardon, et on va dire, lui, peut-être dans cette histoire. Donc, les journaux publient son identité, et on le recherche. Il devient donc quasiment l'ennemi public. Et à Paris, un policier va le suivre, lui est part en moto, le policier le poursuit, une course, dans le bois de Boulogne, les deux tombent, le policier tire, lui également, et c'est le policier qui est mort. Et dans un deuxième temps, il essaie de s'expliquer sur cette affaire, parce qu'effectivement les journaux ont pu broder sur cette histoire, c'est quand même une histoire extrêmement longue, et Cardon va se rendre chez une avocate qui avait été partie civile dans un des dossiers dans lequel il était inculpé avant, il était mis en examen avant, va la prendre pour otage et va demander à une journaliste qui avait fait un article particulièrement virulent de venir, et il va également la prendre pour otage. Voilà. Et c'est à ce moment-là que la concierge s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que les policiers sont intervenus et que Cardon a été arrêté. Alors, l'affaire de Bordeaux était une affaire qui était tout à fait mystérieuse. On s'était aperçu objectivement qu'il n'y avait pas la possibilité qu'une personne ait pu commettre les faits, une personne seule. Bon, on ne voyait pas très bien comment les nœuds qui attachaient le chirurgien à M. Haran avaient pu être faits par une personne toute seule. On ne voit pas comment il aurait pu partir tout seul avec Aline Haran. Bon, et l'instruction donc s'est déroulée. Cardon a pris une position de dire qu'il y avait plusieurs personnes, certes, mais qu'il ne parlerait pas et qu'il ne dirait rien, qu'il ne dénoncerait personne. Et on est resté, j'allais dire, un peu sans trop savoir ce qui s'était passé. C'est ainsi que l'affaire a été jugée et que Cardon a été condamné, lui, non pas pour le meurtre, mais pour complicité.
De complices qui n'ont jamais été retrouvés.
De complices qui n'ont jamais été retrouvés. Voilà. La réalité du pourquoi et ce qui s'était passé exactement, on n'a jamais pu le savoir. C'est classé à moins que Cardon, un jour, veuille parler.
Non, j'ai le sourire parce que j'en suis sorti. L'essentiel, c'est de s'en sortir. C'est la boxe qui m'a appris ça. Vous êtes sur un ring, vous commencez un combat, vous avez une garde haute. Au milieu du combat, vous n'avez pas baissé la garde puis dire « bon, bah, j'arrête ». vous allez aller au tapis, vous allez vous faire défoncer, droite, gauche, crochet, uppercut, et vous, vous roulez au tapis, et puis voilà. Exactement pareil sur les projets que vous avez, etc., dans la vie. Quel que soit le projet d'ailleurs, il faut aller jusqu'au bout. Faut pas s'arrêter en chemin, c'est pas la peine. C'est la boxe qui m'a... Oui, c'est la boxe qui m'a sauvé la peau. C'est la boxe qui m'a sauvé la peau. Quand on a été brocardé à la une...
Parce que pendant très longtemps, vous avez été catalogué ennemi public numéro un...
C'est ça, c'est ça.
Homme le plus dangereux de France...
Voilà, c'est ça. Donc quand vous avez une image comme ça, elle est très dure à enlever parce qu'on vous met dans un cadre... Et pour vous retirer de ce cadre, il faut vraiment en faire. Moi, on me disait toujours, j'ai eu 3 entraîneurs de boxe à l'intérieur, en boxe anglaise. Le dernier, c'était Daniel Leroy, qui est à un club rochelais. Et il me disait, tu vas devoir en faire plus que les autres. On te regardera 2 fois plutôt qu'une, compte tenu de ton passif. Alors, moi, j'ai payé ma dette à la société. Je l'ai payé lourdement, c'est normal. J'avais commis des faits, des crimes. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je demande à ce que cette porte se referme. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, parce que partout où vous allez pour l'ouverture d'un compte en banque. J'ai mis un mois et demi pour ouvrir un compte en banque, on me jetait partout. J'ai dit, quand j'avais une arme dans la main, on faisait pas tant de manières. Vous avez des fiches de paye? Non. Vous avez une quittance de loyer? Non. Mais vous venez d'où, monsieur? J'étais à l'étranger. Parce qu'on veut pas dire au départ. Et puis à un moment, je disais, bon, écoutez... c'est bon, la pièce de théâtre, on l'arrête, je sors de 29 ans de prison. En face, j'avais des gens, ils étaient statufiés. Ils me regardaient, mais vous avez l'autorisation pour ouvrir un compte? Mais bien sûr, j'ai l'autorisation. Vous, en plus, c'est la loi, vous devez m'ouvrir un compte. Hop, bah écoutez, on va consulter notre hiérarchie, etc., etc. Puis à chaque fois, j'étais jeté. Il faut tel papier, nous faut l'extrait du jugement qui vous a rendu la liberté. L'autorisation du juge, M. Tromblot, qui vous autorise à ouvrir un compte en banque, alors que ce n'est pas la loi. Mais il demandait tout ça, en fait, pour me dire, ben voilà, on veut pas vous ouvrir un compte client. Quoi. C'est tout simplement une façon de m'envoyer dans les cordes, mais gentiment, quoi. Je suis pas un tolard qui sort. Je veux être un citoyen. Je retourne parmi les hommes, parmi la société des hommes. D'accord ? Quand vous conduisez une voiture, gardez devant vous. Vous n'avez pas les yeux rivés dans le rétro, parce que vous êtes dans le décor. Bon, ben moi, je leur ai dit pareil. Si vous me ramenez sans arrêt en arrière, je vais regarder derrière moi, je ne vais pas voir où je vais en avant, et à un moment, je vais aller dans le décor.
The man the authorities came to blame for something that he never.
donc ça c'est... C'est
notre centre, on fait du sac. On travaille les combinaisons, on travaille le cardio.
C'est quoi les combinaisons là par exemple?
Les combinaisons, gauche, droite, crochet au foie. Gauche, percute, crochet face. 1, 2, 3 en ligne. 1, 2, 3 plexus. On travaille sur le sac. C'est incontournable le sac à la boxe. Puis ça permet de se retrouver, quoi. Hein? On retrouve ses repères, on retrouve tout ça, quoi. Parce que, mentalement, il faut être disponible pour la boxe. On ne l'est pas toujours. On ne l'est pas toujours. Et le fait de mettre les bandes, de mettre les gants et d'aller travailler sur le sac, on se focalise sur tout ça et on rentre dans cet univers et ça permet effectivement de se retrouver, quoi. On fait le vide dans sa tête et il n'y a plus que le sac et vous. Il n'y a plus que le sac et vous. Voilà, hein. J'ai fait l'université du crime, mais j'ai pas fait l'université des hautes études. J'avais eu mon BEP, quoi. Après, je suis parti en formation restauration à l'âge de 16 ans. Et je devais partir à l'école hôtelière pour passer, à 19 ans, pour passer mon degré de chef de rang. Mais j'ai jamais été à l'école hôtelière. Ça a été l'erreur. Il y a les copains, il y a les nanas, les mauvaises fréquentations, les machins, on est jeune. Il n'y a pas de cadre pour vous maintenir. Et hop, on part. Il faut un cadre, quel qu'il soit, mais il faut un cadre. Le cadre familial, il éclate. Il n'y a pas de cadre sportif, il n'y a pas de cadre professionnel, il n'y a pas, il n'y a aucun cadre. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune, dans cette situation-là, il part à la dérive.
Vous êtes parti de chez vous à 16 ans, vous?
Oui, j'étais émancipé à 16 ans. Ouais. Donc on part un peu à l'autre veau, là, à droite, à gauche. On vous demande, tu sais conduire? Moi, j'étais un bon driver, je faisais du karting. Et... Donc après, tiens, là, on va faire une poste, on va braquer une poste, il nous faut un driver, voilà. J'ai commencé comme ça. Hein. Bon, après, on a mis la cagoule et on est monté derrière les comptoirs, les armes à la main. Alors après, quand vous partez sur ce chemin-là, il n'y a pas de rémission, hein, il n'y a pas... Obligatoirement, ça finit soit par la prison, soit par la mort. Hein.
Là, vous êtes retrouvé en prison.
Tout à fait.
Une première fois, non?
Première fois. Première fois, ouais. Et quand je suis sorti la première fois, là. Cette peine de prison, j'avais pris dans la figure comme une claque, quoi. C'était encore une autre période, quoi. Où les types marchaient au pas, quoi. Avec des surveillants, avec des casquettes. C'était totalement différent. Et j'ai été parachuté dans cet univers très jeune. J'en suis sorti, j'étais cassé dans ma tête, quoi. Quand je suis rentré, j'avais 19 ans. Puis c'était freine, c'était très répressif. C'est le bastion de la répression pénitentiaire à l'époque. J'ai vu des horreurs, donc ça m'a perturbé. Ma sensibilité en a pris un coup dans la gueule. Si bien quand je suis sorti, j'étais complètement monté. Alors partant de là, quand vous sortez revanchard ou animé de haine, pas ligue dans le mur, hein, c'est ce qui m'est arrivé. Et tout ce que j'ai vu, je me suis dit, c'est intolérable, quoi. Tout ce qu'on peut voir à l'intérieur des murs, c'est intolérable, et les gens dehors s'en foutent total. Donc ça vous positionne dans une rébellion sociale, je veux dire, criante, quoi. Alors après, vous côtoyez que quoi? Que des révoltés, des asociaux, des types qui sont en marge. Alors après, c'est votre univers. Mais dans cet univers-là, c'est pas le monde du travail.
C'est pas le monde de...
De monsieur tout le monde. Alors, on va pas travailler, mais tu plaisantes, on va pas travailler, mais on va braquer. On va leur prendre l'argent. Donc, on rentre dans une espèce de dynamique de rébellion qui est destructrice à long terme. Vous pensez être dans le vrai parce que vous êtes jeune et vous êtes con. Et il n'y a personne autour de vous pour vous dire « Non, non, tu fais fausse route, là. Hein. » Parce qu'autour de vous, vous avez quoi? Des mecs qui ont fait de la prison, qui sont sortis, des anciens braqueurs, des anciens flingueurs et tout ça. Et dis, mais ouais, mais t'as raison, jeune, vas-y, monte les crocs, prends-leur l'argent, puis va vivre quelque part. Alors vous croyez que c'est la solution, quoi. Et ça donne ça.
après, on se retrouve à perpète en prison. Et on n'a pas compris. C'est une question d'aiguillage. Alors moi, j'ai pris un mauvais aiguillage. À 50 piges, j'ai inversé la vapeur. Et si donc, je peux en faire bénéficier à des jeunes qui sont sur des chemins, on va dire, de traverse, et bien si je peux les aider quelque part, à les recadrer. Maintenant, n'attendez pas de moi un discours moraliste ou un discours judéo-chrétien. Hein. Moi, si tu prends un coup sur la bougeot, tu tends pas la droite, hein. Tu te défends, hein. Tu ripostes, hein. T'esquives, tu chasses, tu remises.
Marcel Cerdan porte une culotte bleue à bandes blanches, pendant que Hassan Diouf, qui est noir, comme vous le savez, porte une culotte verte et rouge avec les parements tricolores de champion de France, puisqu'aussi bien des champions de France. Cerdan, légèrement contracté, encaisse encore un direct du gauche, mais il n'a pas l'air de vouloir entendre, il vient de placer un très bon crochet du gauche. Hassan Diouf se tient au loin, mais vient d'encaisser deux crochets du gauche à la figure. Hassan Diouf se brasse aussitôt, mais il est contré aussitôt par un large crochet du gauche, et il est encore une fois ébranlé. Cerdan place encore un crochet du gauche, puis un crochet du droit. Hassan Diouf va encore à terre. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Faut être un homme pour monter sur le ring et faire face à la vie. Que je perde ou que je gagne, tant que je me bats, je vis. Le chaos, c'est pas la mort, mec. À la Jean-Marc mort, mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec. Y'en a qui parlent, y'en a qui font. Y'en a qui voudraient être alors qu'y'en a qui sont. Y'en a qui sortent grandis d'une défaite. Y'en a qui savent faire naître une victoire dans l'échec. À la Jean-Marc mort, mec. On verra pas, on a la rage et le courage. On est noir, on est fier. On est fort, on est pas, je me blesse, on n'est jamais forfait. On peut faire redoubler des forces, c'est ce que le fort fait, parce que le fort c'est.
Il se relève à peine au moment où l'arbitre compte 10, et c'est la fin. Hassan Diouf, qui veut se relever pour serrer la main de Cerdan, retombe comme une masse. Il tombe sur son séant, et Cerdan est obligé de le transporter lui-même dans son coin. C'est une fin lamentable pour ce pauvre Hassan Diouf, mais c'est véritablement une victoire glorieuse et sensationnelle de plus. Au titre de Marcel Cerdan.
La boxe. Il faut revenir à la boxe, aux paramètres de la boxe. C'est pas que je veuille être un exemple, c'est pas ça. C'est pas ma démarche, je suis pas mégalomane à ce point. Moi, mon discours, c'est que il faut que les espaces boxe soient développés en prison. Et ce qui est en train de se faire maintenant que Madame Toubira est arrivée derrière Dati. Mais il y a quand même un os, et il est sérieux. C'est-à-dire que au niveau de la boxe, là, je vais préparer donc mon brevet de prévôt d'entraîneur de boxe. D'accord ? Moi, j'aurais voulu effectivement passer mon brevet d'État. Parce que le brevet d'État vous permet d'entraîner des professionnels. Et le brevet d'État, au niveau des ministères des Sports, demande un casier judiciaire vierge, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai fait parler la poudre, ok. J'ai mis la cagoule, ok. Mais maintenant, je suis tout autre. Et je suis tout autre grâce à la boxe. Il y a des jeunes délinquants qui sont sortis, qui se trouvent dans des clubs de boxe, des gars qu'on a récupérés en prison, qu'on a entraînés un peu en prison. Tout de suite, boum, ils sont venus au club, maintenant ils ont un petit taf, ils ont une petite nana, ils sont rentrés dans le rang. Maintenu par le cadre de la boxe. Alors, c'est pas pour autant que je dis aux gars, il faut ramper, hein. C'est pas ça, hein. Il faut préserver sa dignité, rester un homme, mais il faut respecter aussi les règles. Donc, il y a une transition entre les règles du ring et les règles sociales. Elle est évidente.
Quelle heure il est là ?
Midi 20.
Ah. Oh ! J'ai soif, putain.
Vous m'avez connu combien des prisons ?
J'ai fait ce qu'ils appelaient à l'époque du tourisme pénitentiaire, c'est-à-dire que, je sais plus, j'ai entre 80 et 100 transferts.
Dans des prisons différentes ?
Ouais, dans des prisons différentes, quoi. Pour éviter des tentatives d'évasion, on fait des préparatifs, et quand ils sentent qu'il y a quelque chose, que les gars sont trop calmes, là, il y a quelque chose qui se prépare, boum, on transfère. Et on casse les préparatifs. C'est pour ça que
Les tentatives d'évasion, c'est une chose, mais les préparatifs, on en a fait d'innombrables, qui ont été à chaque fois désamorcés par tous ces transferts intempestifs.
La pire des prisons, ça a été laquelle ?
Clairvaux. Clairvaux, le bastion de Clairvaux, ouais. C'est une prison, on est ravitaillé par les corbeaux, c'est en plein milieu des bois, c'est dans l'aube, et c'est le bastion, Clairvaux, c'est le bastion des centrales de sécurité. Pendant très longtemps, ça l'a été. Il n'y avait pas d'évasion, parce que là-bas, une tentative d'évasion, le gars était rué à coups de manche de pioche, et puis généralement, c'était des... Il gardait des séquelles à vie, donc ça lui passait l'envie de chercher à s'évader. C'était ça. Moi, en 92... En 90, là-bas, j'étais au quartier de sécurité, ils m'avaient construit une cage de sécurité, parce qu'ils considéraient que les quartiers de sécurité, les quartiers d'isolement et de sécurité n'étaient pas assez sécurisés. Ils cherchent quand même à s'évader des quartiers, donc on va y monter une cage. J'avais pas de paquetage, j'avais rien, j'étais nourri sous une grille de sécurité. Chaque fois que je devais sortir, fallait que je me mette à poil, que je passe mes affaires sous la grille, que je sorte dans le couloir entouré de 5-6 surveillants avec un brigadier, plus loin avec un talkie-walkie et puis une bombe lacrymo, une gazeuse dans les mains. Et là, ils vérifiaient mes affaires, ils me regardaient, après je me rhabillais, ils me mettaient en cour de promenade, grillagé, la cour de promenade bien entendu. Une fois je revenais en cellule, rebolote devant la cellule de sécurité, à poil, vous rentrez à l'intérieur, on vous repasse vos affaires sous la grille. Donc c'était des conditions cauchemardesques, quoi. Et donc, au bout d'un an et demi, j'ai réussi, à neutraliser tout le personnel. J'ai pris des surveillants, effectivement, j'ai neutralisé pour essayer de faire venir le procureur de la République, le préfet, pour dénoncer les conditions de détention.
Donc vous avez pris un otage neutralisé.
Voilà. Et résultat des courses, j'ai sauvé ma peau en montant sur les toits. Parce que sinon, j'étais mort. Et Clairvaux, il n'y avait pas de ça. Hein. Clairvaux, on ne faisait pas des choses comme ça à Clairvaux, hein. Le directeur de l'époque avait appelé le ministère, l'avait dit, s'il reste une nuit ici, à Clairvaux, au cachot de Clairvaux, je ne garantis pas de sa vie. Il faut l'évacuer tout de suite. Toutes mes périodes agitées, ça a été dans les quartiers de sécurité. C'est sûr que dans des contextes comme ça, on dépérit, on s'en sort pas.
Il pleut. Alors pour vous, là, c'est quoi le programme maintenant ?
Je dois aller à la CAF. Parce qu'il me manque un papier administratif ayant trait à mon dossier RSA.
D'accord. Voilà. Bah, vous avez tout ça à gérer aussi, faire
voilà,
les papiers.
Les démarches administratives, voilà, tout seul. Alors c'était pas évident les deux premiers mois. Bon, maintenant, ça y est, j'ai mes repères, je m'y retrouve, j'ai le plan de Toulouse. Même seul, je m'en sors.
Si tout se passe bien, vous êtes libéré définitivement quand ?
Eh bien, dans 10 mois.
10 mois ?
Ouais. Dans 10 mois. C'est le bout du tunnel. Après tout ce chemin, j'en ai tellement vu que... Bon, là, c'est pas insurmontable. Et tout ce que je trouve devant moi, c'est pas insurmontable. Cela étant, c'est vrai qu'accumuler, notamment les démarches administratives, se faire jeter à droite à gauche, à force, c'est lourd. Mais bon... Je pense sur moi-même et puis j'ai trop vu de situations extrêmes. Je suis un type qui a vécu dans l'extrême pendant 30 ans. Donc, c'est pas des obstacles. À proprement dit, c'est pas des obstacles.
C'était La Belle à coups de poing, une nouvelle diffusion d'un reportage de Charlotte Perry. Merci à Lionel Cardon, à Maître Blasi. Merci également à Kim du gymnase Saint-Cyrmain et au service des sports de la mairie de Toulouse. Merci à Mustapha Kessel, journaliste au quotidien Le Monde, pour le reportage qu'il avait écrit sur le sujet. Et merci à Didier Tremble, au vice-président d'application des peines au tribunal de grande instance de Toulouse. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La technique aujourd'hui, Michel Thomas et Nicolas Jaillot. Une émission réalisée par Lucie Hakoun, Chloé Sanchez et Jérôme Chelius. Préparée avec Grégory Salomonovitch et Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
les 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce que vous faites à la ménagerie ?
Je suis garde.
Vous n'avez pas peur de vous faire manger par un hippopotame ?
Il n'y en a pas d'hippopotame à la ménagerie.
Il n'y en a plus ?
Il n'y en a plus.
Parce qu'avant, il y en avait un.
Peut-être, je n'étais pas née.
Vous ne savez pas comment il s'appelait ?
Non, je n'étais pas née.
Il s'appelait Caco. Et il a mangé son gardien. Deux gardiens, oui, c'est vrai. Il en a mangé un premier, puis il y en a un deuxième qui l'a remplacé, il l'a mangé aussi.
J'ai pas lu l'histoire.
Salut, tu vas bien ? Comment tu t'appelles ?
Zachary.
Comment ?
Zachary.
Zachary, j'avais pas entendu le Zach. J'avais juste entendu Gary. Je me dis, tiens, ça c'est cool comme prénom. Elle te plaît cette histoire d'hippopotame ? T'as vu, il y en a deux énormes en plastoc.
Moi j'ai l'impression que c'est pas vrai.
T'as l'impression que c'est pas vrai ? Pourquoi t'as l'impression que c'est pas vrai ?
Bah, parce que... Tu vois, la dame, elle avait dit qu'il allait venir. Alors, s'il va venir, c'est qu'il n'est pas mort.
Ah non, pas l'hippopotame. L'hippopotame, non. Il ne va pas venir.
Le gardien.
Alors, ça veut dire que c'est pas vrai. Ah, parce qu'il a été mangé, alors.
Oui, il a été mangé, le gardien. Mais il y a un nouveau directeur, et le directeur, il va arriver.
Moi, je croyais que c'était le même.
Ah oui, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans la ménagerie du Jardin des Plantes, en compagnie de son directeur, mais je n'ai pas votre nom.
Michel Saint-Jean. Ça va bien vous-même?
Très bien, bah, ravi d'être chez vous, voilà, et de présenter Caco le Terrible, de le lancer ici, dans l'ancienne fosse au Pachyderme, non?
Oui, bah, nous sommes super contents de vous recevoir, parce que votre travail est quand même, moi je trouve, magnifique.
Merci voilà. beaucoup.
On retrouve à la fois toute l'histoire de la ménagerie, puis l'histoire, on l'a ici, puisqu'on est quand même dans la rotonde, ce bâtiment qui a été construit à l'époque de Napoléon Ier, en forme de croix de la Légion d'honneur.
Emmanuel Pollack disait qu'elle était contente d'être chez vous. C'est chez vous ici ?
C'est chez moi.
C'est pas mal chez vous, dites-donc. On est où ici, alors ?
Au milieu du Jardin des Plantes, cette ménagerie est... l'un des plus anciens zoos au monde, fondé en 1794, juste après la Révolution française. Et c'est le deuxième zoo par son ancienneté, après le zoo de Vienne, le zoo de Schönbrunn, qui avait été construit quelques années plus tôt. Et donc ce zoo fêtera l'année prochaine ses 220 ans.
Mais vous connaissiez l'histoire de Caco qui a mangé son gardien Séraphin ?
Je connaissais l'histoire, c'est un des animaux célèbres de la ménagerie. Et au cabinet d'histoire, à partir du mois d'avril, on va mettre en place une nouvelle exposition qui s'appellera « Les animaux célèbres du Jardin des Plantes ». Et on racontera l'histoire de la ménagerie à travers tous les animaux qui s'y sont succédés et pour lesquels il y a eu une histoire particulière.
Et alors, votre animal préféré, c'est lequel ?
Mon animal préféré, c'est l'orang-outan.
L'orang-outan ?
Oui, parce qu'à la ménagerie, nous avons encore des grands animaux, même si nous n'avons plus d'hippopotames, nous avons des orang-outans. Et dans ces orang-outans, nous avons une femelle qui est très très célèbre.
Qui a été filmée par Nicolas Philibert.
Exactement, notre femelle Nénette, qui a 44 ans aujourd'hui, et qui est un des orang-outans les plus anciens dans les parcs zoologiques européens.
Elle va bien ?
Elle est en pleine forme.
Et pourquoi il n'y a plus d'hippopotame ? Parce qu'on a découvert que l'hippopotame mangeait son gardien et vous avez eu peur ?
Non, pas du tout. Aujourd'hui, la ménagerie étant un zoo de relativement petite taille, la façon de présenter les animaux a changé. On fait très très attention au bien-être animal et on ne présente plus à la ménagerie de grands animaux qui ne sont pas adaptés à la taille de nos enclos.
Vous avez combien d'animaux ?
2000 animaux si on compte des insectes.
Je veux que vous me disiez 2000 animaux si on compte les gardiens.
Non, si on compte les arthropodes. Mais si on compte uniquement les oiseaux, les mammifères, les reptiles, ce qu'on appelle les vertébrés, nous avons environ 1000 animaux.
Bah, monsieur le directeur, je vous remercie.
Merci à vous.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être illustrateur ?
Oh là là, c'est arrivé par hasard il y a longtemps. Très jeune, j'étais orienté vers des écoles d'art, donc je dessinais beaucoup. Mais ça n'existait pas, le métier d'illustrateur, il y a longtemps. Et donc, j'ai fait l'école Estienne, je suis sorti, j'ai travaillé d'abord pendant 10 ans dans la publicité. Au temps où les ordinateurs n'étaient pas encore omniprésents et où on dessinait encore des concepts à main levée. Et un jour, par hasard, une amie à moi me dit « Écoute, j'ai un texte qui est pris chez un éditeur. Toi qui dessines, tu voudrais pas faire des illustrations ? Je dis, écoute, moi je sais pas faire, mais je vais bien essayer. Et j'ai fait mon premier livre, puis mon second, et je me suis dit, mais c'est génial, c'est le métier que je veux faire. J'ai appris sur le tas, finalement.
Ce soir, c'est Noël. Est-ce que vous avez un conte de Noël qui vous tient particulièrement à cœur ?
Un conte de Noël, non, parce que... bon, j'aurais peut-être pas dire ça, mais Noël m'ennuie profondément. Moi, j'aime pas ça, Noël, du tout. J'aime pas les fêtes. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Et si on veut en savoir plus, il y a le livre Caco le Terrible, écrit par Emmanuel Polac, illustré par Barou, aux éditions La Joie de Lire.
Et joyeux Noël à tous, quand même.
C'est quoi votre pire Noël ?
Oh là là, je vous raconterai pas.
Vous en avez parlé à votre psy ou pas ?
Non, mais j'ai peur d'aller lui en parler. Non, je préfère garder ça pour moi.
Mais vous le racontez en dessin, ça ?
Je devrais faire un livre pour enfants qui devrait s'appeler... Oh, peut-être ça existe déjà, d'ailleurs. Je hais Noël ou je déteste Noël.
À suivre, Frédéric Lodéon. Très bon après-midi à l'écoute de France Inter. Il est 16h. Les informations, Rémi Brancato.
On découvre peu à peu l'ampleur des exactions commises en ce moment au Soudan du Sud. La haut-commissaire de l'ONU en charge des droits de l'homme vient d'annoncer depuis Genève la découverte d'un charnier à Bentiu, dans un état pétrolier du Sud-Soudan. Elle dénonce des exécutions de masse en dehors de tout jugement et le ciblage d'individus sur la base de leur appartenance ethnique. Les violences entre rebelles fidèles à l'ancien vice-président et forces régulières ont provoqué l'exil de 40 000 personnes au Soudan du Sud. En Centrafrique, la situation sécuritaire est là aussi bien loin d'être satisfaisante. Ce matin, ce sont carrément les soldats tchadiens et burundais qui se sont affrontés. Ils font pourtant partie de la même force de l'Union africaine pour la paix. Une nouvelle manifestation anti-française a eu lieu à Bangui après celle de dimanche. Des centaines de personnes ont dénoncé l'intervention militaire Sangaris ce matin. Ils la jugent trop favorable aux chrétiens au détriment des musulmans. Des raids aériens d'Israël sur Gaza. L'armée israélienne a lancé une offensive cet après-midi sur des positions de la branche armée du Hamas dans ce territoire palestinien. Une petite fille palestinienne de 3 ans serait morte et 4 autres palestiniens blessés selon des sources médicales sur place. Ces raids interviennent juste après la mort d'un soldat de Tsahal tué à la frontière par des tirs en provenance de Gaza. 4 jours après sa libération, Mikhaïl Khodorkovski a déposé une demande de visa pour la Suisse et de fait l'espace Schengen. Aujourd'hui à Berlin, l'ancien oligarque et opposant à Vladimir Poutine devait retrouver son épouse et leurs 3 enfants. Il a par ailleurs mis en garde les 2 membres du groupe punk des Pussy Riot, libérés hier, contre la haine et la rancœur. Les 2 femmes qui se sont retrouvées aujourd'hui en Sibérie ont annoncé leur intention de se battre pour la défense des droits de l'homme en Russie. En France, la principale information aujourd'hui, c'est que le réveillon de Noël se passera à la bougie pour des dizaines de milliers de foyers, surtout en Bretagne, en Normandie et dans le Nord, après le passage de la tempête Dirk la nuit dernière. 185 000 foyers sont toujours privés d'électricité. ERDF ne promet rien quant au retour du courant. 19 départements en tout sont toujours en vigilance orange. Risque de crue et danger lié au vent fort. Un marin russe est toujours porté disparu au large de Brest. Un enfant de 12 ans est mort dans le Calvados, tué par l'écroulement d'un mur sur un chantier, peut-être à cause de cette tempête. Une bonne nouvelle toutefois, le trafic qui a repris peu avant 14h à l'aéroport de Lille-Léquin. Autre bonne nouvelle, ils s'en sortent sains et saufs. Bernard Stamm, le skipper suisse, et son coéquipier Damien Guillou, tous deux se trouvaient en difficulté dans la Manche. Ce matin, ils ont été secourus par un navire norvégien. Le voilier de Bernard Stamm, cheminée Poujoula, lui, est perdu. Et puis comme ce soir, c'est le réveillon de Noël, il est de bon ton d'adresser ses vœux pour les fêtes de fin d'année. Et un ancien président ne s'en est pas privé, Nicolas Sarkozy, dans un message à ses amis sur Facebook. Il souhaite à chacun de très belles fêtes et ajoute « Je serai toujours là, parmi vous, de quoi entretenir encore un peu les multiples spéculations sur son retour éventuel en politique. »
De l'Afrique enchantée.
Auditrices, auditeurs de France Inter, approchez-vous du poste. J'ai pour vous un remède miracle contre la mauvaise ambiance. C'est l'eau bénite qui vous sortira la tête de l'eau.
Hein, et ça s'appelle comment ton machin ?
L'Afrique enchantée. Et c'est moins cher que gratuit.
L'Afrique enchantée, tous les dimanches à 17h.
Et bientôt remboursé par la Sécurité sociale.
France Inter.
La voix
est libre.
Et la musique au programme tout de suite également pour le Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric Léon.
Et bonjour Rémi Brancato, on vous retrouve tout à l'heure à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour, bonjour. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, veille de Noël, c'est être tranquille, être heureux en famille, avec des amis. Et évidemment, on pense beaucoup à ceux qui souffrent de la tempête, qui n'ont plus d'électricité, qui vont réveillonner à la bougie, peut-être devant la cheminée. Dans le meilleur des cas aussi, on pense bien à vous. Et puis, ce matin, j'ai entendu beaucoup parler de recettes de cuisine. C'est vrai que l'ambiance est plutôt au laisser-aller, au lâcher-prise et à la joie de vivre. Ce sera la tonalité de cette émission, avec tout de suite un salut d'amour de Sir Edward Elgar, composé pour sa douce et tendre Alice. Salut d'amour d'Edward Elgar, interprété par Isaac Perlman avec Samuel Sanders au piano. Et puis j'ai eu envie de vous proposer une deuxième pièce par les mêmes interprètes, tout simplement parce que ce Sapateado, danse déjà connue au XVIe siècle et qui est accompagnée par les talons des danseuses, surtout ce Sapateado de Pablo de Sarasate, je l'ai diffusé lors de la première émission Carrefour de l'Odéon. C'était en 92 en direct du Festival d'Aix-en-Provence et ce disque m'est toujours extrêmement précieux. J'espère qu'il vous fera plaisir aussi.